fin 2018, Christian Saint-Paul, Svante, Svajström et moi-même, Francis Pornon, avons entamé une série de présentations de poètes à l'Ustal d'Ucitanio pour pallier un manque. Grâce à la bienveillance de Convergencio Occitano et de l'Ustal et à la coordination par Svante, ont été ainsi présentés Andrea Genovese, Christian Saint-Paul, Svante Jaström, Claude Barrère, moi-même, Capitaine Slam et Franck Bardou, ce avec la participation de divers autres poètes, comédiens et musiciens. Cette année scolaire 2021-2022 commence par la présentation de Casimir Bratt, aidé d'Elisabeth Aragon, poétesse, Marie Dilly, comédienne, et d'Angélique Risson à la harpe. Elle se poursuivra par celle d'Elisabeth Aragon le 25 novembre et de Béatrice Bouffil début 2022. Merci de votre écoute.
Casimir Bratt, fils de réfugié politique espagnol, est né en 1955. Selon Michel Baglin, on peut lire dans Texture, il a une œuvre derrière lui, une écriture saluée à ses débuts par Francis Ponge, qui préfacera son premier recueil, L'horreur ou la merveille, chez Multiple, puis saluée par Gaston Puel et bien d'autres. Une douzaine de recueils et de plaquettes de poésie jalonnent un parcours marqué en 1989 par l'attribution du prix Antonin Artaud et du prix Max-Paul Fouché en 1995. Il prend un pseudonyme dont il nous expliquera peut-être le choix. Car pour lui, je le cite, « écrire, c'est être soi-même plus un autre, plus un autre, plus un autre, etc. » pour finir par dire que les choses ne peuvent pas être autre chose que ce qu'elles sont. Poursuivant son travail de libraire à la FNAC, depuis 2005, il s'était mis en retrait, en recherche ou, dit-il, à l'affût d'une nouvelle source. Un seul livre de Casimir Bratt reste disponible en librairie à ce jour, c'est « Sait-on jamais ?», ce sont des poèmes de 1995 à 2004 chez Gallimard, l'Arpenteur. Aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, il refait surface, dans les Olympides, de ses nouveaux poèmes, que vous allez avoir le privilège d'écouter. Casimir Bratt s'était fait remarquer par ses poèmes publiés sous le titre Herbier en 1980 dans la revue Vagabondage, qui avait alors une large diffusion. Henri Hurtebise, en 1983, publie son premier recueil dans la revue Multiple, L'horreur ou la merveille, avec un avant-propos de Francis Ponge. Il multiplie ensuite les publications jusqu'en 2005. Il est lauréat, comme je vous le disais, en 1989 du prix Antonin Artaud pour « Elles habitent le soir ». C'était aux éditions de l'Arbre, publié en 1988. Il est lauréat du prix Max-Paul Fouché en 1995 pour « Tout est cendre » aux éditions Le Dé Bleu et ses poèmes de 1995 à 2004 sont repris sous le titre « Sait-on jamais ?» par les éditions Gallimard, collection L'Arpenteur, avec une préface de Guy Goffet en 2005. Casimir Bratt n'a cessé de rappeler que les poètes grecs ont nourri la poésie française. Il clame son attachement à la poésie contemporaine grecque, l'éblouissement qu'il ressent à la lecture des poèmes de Yanis Ritsos. Rien d'étonnant dès lors que ses nouveaux poèmes aient pour thème la figure centrale d'Antigone. Mais c'est Jean Malrieux qui, dès qu'il l'a lu, lui a donné envie d'écrire de la poésie. La poésie, pour Casimir Bratt, est une sorte de consolation, un des chemins de la réappropriation du langage. Il faut laver les mots de tous les jours et les utiliser de façon qu'ils provoquent un étonnement. C'est d'ailleurs l'étonnement, cher à la poésie, et qui met l'intelligence en éveil, qui est commun avec l'engouement de la philosophie. Poésie et philosophie, l'une et l'autre, ont pour vocation d'aider l'homme à mieux vivre sa condition humaine. Pour Casimir Pratt, le poète, ça n'existe pas. Je le cite. Il est comme tout un chacun, il travaille à gagner sa pitance. Écrire n'est rien, être dans la situation d'écrire, voilà la difficulté. Pendant longtemps, Casimir Pratt, libraire à la FNAC, chargé de famille, n'a pu trouver cette disponibilité. Le regretté Pierre Autin-Grenier confie à son épouse le soin de subvenir aux besoins du ménage, comme Charles Juillet à ses débuts. La vie triviale empêche ce travail qui exige un vrai retour sur soi, une concentration absolue. Un auteur imposait même un silence total à sa femme toute la matinée pour ne pas le divertir dans sa tâche d'écrire. L'idée peut disparaître comme une bulle de savon. Ce travail de poète requiert un effacement des obligations ordinaires. Aujourd'hui, Casimir Pratt, libéré de ses obligations, ranime la haute flamme qui couvait sous les braises, qui n'avait en réalité jamais refroidi et dont il avait toujours entretenu l'incandescence. Je me souviens qu'il avait pour projet de publier un nouveau livre de poèmes qui aurait pour titre « Du lundi au vendredi » ou « Le sable entre mes doigts ». Une constance. Comment retenir ce qui nous échappe? Mais la poésie intimiste de Casimir Pratt n'est jamais une poésie de la déploration. C'est ce paradoxe où l'inéluctable n'est pas nécessairement tragique, où l'éphémère nous ravit, qui fait tout l'éclat de la poésie de Casimir Pratt. Comme le suggère le titre d'un poème extrait de « Sait-on jamais ?», nous devrions obéir à son injonction « Laissez faire les nuages ».
Variation Antigone. Ce texte, commencé il y a plus de 15 ans, est depuis remisé dans un tiroir, puis déterré, expurgé, remanié, amendé et à ce jour encore inachevé, se présente comme un monologue. S'agit-il de l'Antigone antique créée par Sophocle? Sans doute, mais pas exclusivement, elle en garde des souvenirs. Celle qui parle est aussi Emily Dickinson, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Alexandra Pizarnik, Ingeborg Bachmann et sans doute quelques autres femmes suppliciées de la poésie. D'où le terme de variation pour toutes ces raisons. Celle qui parle s'adresse à une personne qui pourrait être un ami, son traducteur ou son frère. Alternativement et successivement et indistinctement, elle-même ne sachant plus trop qui elle est et se trouvant affectée d'une certaine addiction pour les boissons alcoolisées, ayant quelque peu déréglé son entendement.
Souvent, je me pose des questions stupides. Je me demande comment font les 5 casseroles accrochées au-dessus de l'évier pour se supporter depuis le temps. Je me demande comment tiennent encore les torchons à carreaux verts sur le fil à linge. Et la dernière pierre posée au-dessus de l'amas de pierre au bord du chemin. Le dernier livre sur la pile de livres, se souvient-il que nous ne l'avions lu qu'à moitié? Et le papillon immobile sur la tige du rosier, qu'est-ce qui le stupéfie? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Qu'est-ce qui fait que le mur reste droit, debout contre le ciel? Et l'écho en équilibre au milieu de la vallée? Le nuage fixe parmi les carreaux jaunes de l'après-midi? La peinture fraîche au bout du pinceau? La question innocente retenue au bord des lèvres? La petite flamme limpide au bout de l'allumette? Feuilles et nuages, paroles ou silence? Les mots, je ne les compte pas. La farandole des jours s'éclipse et se reconstitue invariablement dans le miroir. Seuls parlent devant moi les pierres, les herbes, les nostalgies, les frissons de l'escargot escaladant une rose trémière. Toutes les lueurs du monde, poussière sous les armoires, l'étoile rouge s'arrime au bout de la branche, comme si je me promenais au bord de moi et marchais seul au fond de cette maison où il fait si froid, si froid. À présent, tu vois, je n'ai plus peur des métaphores. Je les habille comme des poupées, comme quand j'étais petite le dimanche, et je les dispose sur mon lit côte à côte. Elles sont mes sœurs un peu. Je leur parle et j'imagine leurs réponses. J'échange leurs robes. Je sers de petits colliers de perles à leur cou, un peu trop fort parfois, je sais. Je n'appréhende plus de jouer avec elles. L'une d'entre elles est morte ce matin, les yeux grands ouverts. Plus tard, la dernière, je la laisse sur la table, désarticulée, avec tous ses papiers, ses morceaux de poèmes désaccordés dont je ne sais que faire. Qu'ils meurent, eux aussi, les yeux grands ouverts. Mais où voudrais-tu aller à présent? Voilà. Je voudrais une dernière fois, avec toi, marcher dans la ville. La grande ville à la joue balafrée, tu sais, ses remblas surpeuplés. La ville avec ses larges immeubles comme une succession de miroirs gris accrochés à la montagne face à la mer, comme s'il la refusait ou voulait l'absorber, la nier. Et je monterai. Tu me tiendras la main en empruntant le vieux funiculaire là-haut, contournant les remparts. Espérant y rejoindre un amour de jeunesse, l'odeur d'un figuier. Là d'où l'on domine toute la cité, d'où l'on peut voir enfin le fleuve triste épouser la mer ravie. Là, au milieu de la fournaise, le fleuve comme une jambe arrachée ou la botte noire d'un cavalier échoué il y a 20 siècles. De là, j'apercevrai les terres rouges au loin, étendues sous un ciel blanc. Je resterai là, longtemps, jusqu'à ce que je ne ressente plus que l'absence, la mienne et la tienne aussi, comme deux paires de gants, déposées côte à côte, bien dépliées, sur la rambarde du parapet.
Thank you. Mais tu ne dis rien. L'aiguille de l'horloge qui tourne, c'est toujours la même phrase. Combien de livres reprennent toujours la même phrase, les mêmes inflexions. Je regarde l'horloge, je regarde les minutes qui tombent, et moi-même je tombe. Je n'ai pas le temps de rattraper mes chaussures. Je les vois qui volent derrière moi, comme des mouettes. Derrière moi, en bas, comme des nuages minuscules. Mes propres paroles, comme des bouts de chiffon qui s'éparpillent dans le vide. Et pourtant, je tombe plus bas, moi aussi, plus bas que ce qui est indicible ou impardonnable. Je n'ai pas le temps de saisir ta main qui soudain flotte devant mes yeux, ton haleine qui voudrait me sauver. Mais qui peut sauver quiconque ? Ce que j'écris ne m'appartient pas. Ce que j'écris équivaut à la bave d'escargot qui brille sur une feuille de laurier, s'apparente à la trace du doigt qui a enlevé un peu de poussière sur la rampe de l'escalier. Ressemble au bruit intermittent des gouttes d'eau qui tombent du robinet dans la bassine. C'est pour cela que j'écris toujours sur des bouts de papier, que je cache ensuite un peu partout dans la maison, dans des endroits incongrus, insoupçonnés, et puis je les oublie. Je les laisse s'abîmer dans les recoins de mon passé. Du tien aussi. Lorsque tu en découvres un dissimulé dans une armoire ou sous le pied d'une lampe, je sais que tu prends un malin plaisir à l'apprendre par cœur, pour tout de suite après le faire brûler lentement dans une soucoupe avec du papier d'Arménie. Pour dissimuler ta secrète jouissance ou me la faire partager. Mais je reconnais malgré tout leur odeur, je reconnais ton sourire pincé, je ne suis pas dupe. Je suis bavarde. Parfois, pour me distraire, je pense à toutes ces choses dépareillées qui vont rester après moi, à ce qu'elles vont devenir, dans cette existence où je n'existerai plus. Tu comprends ? Des choses, des sensations toutes simples. Quand il va se mettre à geler ou neiger, je pense à un rosier ou à des larmes qui ne seront, elles, jamais caduques, à ce mouchoir croquevillé à côté de la lampe allumée, à ce trousseau de clés dans mon sac. Alors qu'il n'y a plus aucune porte à ouvrir ici, je pourrais d'ores et déjà les jeter, non ? Cela m'inquiète. Je m'appelais comment autrefois ? Antigone ? Oui, c'est ça, Antigone. Tu pourrais vérifier. Mais la fleur de l'amandier, elle aussi, ne cesse de vouloir en finir au plus vite. Et la page écornée du livre, la page jaunie, où tu parles des vagues, les vagues, elles aussi, ont jauni entre les voix, entre les actes, au verso des photographies. Y a-t-il un autre nom pour les vagues ? Pour dire que je suis consciente d'entendre, de voir les vagues, aujourd'hui. Pour comprendre que la conscience aveuglée des vagues s'est jetée en moi depuis toujours ? Oh, suis-je si vieille ? Dis-moi, suis-je devenue très laide, effrayante même ? Mais cela n'importe plus. Moi qui n'ai eu d'autre ambition que la précision, d'autre folie que l'exactitude, me voilà rattrapée toujours par l'effrayante ambiguïté des hommes et des propos qu'ils tiennent. Certes, il faut bien qu'une phrase s'achève à un endroit et à un moment précis, que la course des mots réalise son achèvement dans la dissolution des sentiments, la résolution des malentendus, ou par la mort brutale d'un des personnages, ou bien par une ultime description apaisante de l'enfance, dans l'inaboutissement de toute contemplation de la vie ou d'un de ses seuls fragments. Une phrase est-elle faite pour être contemplée ? les vagues, oui, je les contemple encore. Et j'admire pendant des heures leur chuchotis, leur bavardage inconséquent. Et pour être exact, mes phrases les admirent, sans vouloir les comprendre, ni en cherchant à les imiter. J'ai appris par cœur des pages entières de vagues, au point qu'elles pourraient les remplacer, ces vagues, qui perpétuellement se désagrègent et se suffisent à elles-mêmes, et roulent toujours pour aller s'abîmer au bord des apparences. Belle, parce que indéfiniment ambiguë, infiniment dissemblable, comme les pages d'un livre. Pourquoi tu souris ? Tu sais, à propos du sourire, il n'y a pas si longtemps, je suis allée au théâtre, une de ces vieilles tragédies d'Eschyle ou Sophocle, remise un peu au goût du jour. Quel ennui ! Bien sûr, j'ai tout reconnu, tout revécu. Comme si c'était moi encore qui me débattais dans les draps poisseux, les violanges tant de fois souillés de la tragédie. Dois-je t'avouer que je n'ai rien compris ? Seule, à un moment, la fausse barbe de Coryphée m'a fait beaucoup rire. Elle devait visiblement le chatouiller, il se retenait d'éternuer et tentait par mille contorsions de ne pas exploser. Comme moi, à la fin, cette démangeaison soudaine au milieu du dos, une piqûre lancinante que je ne parvenais pas à atteindre avec mon bras, ma main ou mes ongles. Elle ne cessait de changer de place, imprévisible. Comme la fille sur scène, censée jouer mon personnage, beaucoup trop expansive, avec cet accent manifestement emprunté, sa voix parfois trop aiguë ou bien presque inaudible. Je ne reconnaissais pas ma voix dans la sienne. Par contre, j'ai bien reconnu la chaise au fond, sur laquelle j'étais montée pour haranguer la foule et échapper aux soldats, pour m'élever au-dessus du précipice de ma propre obstination. Cette chaise qui depuis était sortie de l'histoire et de ma mémoire. La mémoire, une chaise un peu instable, n'est-ce pas ? Après tout, sur laquelle on se hisse habituellement pour détrôner une toile d'araignée ou pour essuyer le coin d'un miroir ou passe en se balançant la gloire d'un nuage, d'un rire, d'un soleil. Une chaise toute simple, à vrai dire. Un modeste accessoire. Comme les mots, les tirades du dialogue d'ailleurs. Des accessoires aussi. Et les morts vengés. Des accessoires et toute la succession d'actes, pensées. Actes pudiques, les pensées l'étant moins. Gestes interrompus, paroles détachées de leur contexte, comme des pétales flétris. Accessoires, accessoires tous ces gestes grandiloquents, ces larges mouvements vains de bras, d'autant plus larges que vains. Ces mots longuement mûris dans la solitude, dans l'attente de la visite du messager. De la visite de ma sœur, Ismène. Accessoires et ces récits interminables sur les hauts faits de guerre avec des objections enfilées comme des perles impâclables, des masques, et sous les masques, les perles qui tombent une à une du collier de ma sœur et roulent piteusement sur la scène avec un petit bruit calculé. Et les cadavres que l'on retire de la scène rongés par le doute, dans leurs toges secouées d'ultimes soubresauts antiques et dérisoires. Accessoires. Messagers imprévus et aussitôt disparus du temps, enfuis derrière les rideaux, brancardiers du désespoir. Tous accessoires, dont une fois la rancœur passée, l'humiliation consommée, la vengeance assouvie, nous ne savons que faire. La rancœur. Accessoire aussi, la vengeance, un décor humiliant. Et les acteurs, des accessoires égarés parmi d'autres accessoires, dont il faudra bien trouver un emplacement dans les coulisses, en attendant la prochaine représentation.
Tu sais, mon père a été longtemps acteur dans un petit théâtre de banlieue. J'étais une enfant. Je me souviens surtout de l'odeur qui se dégageait de la veste de mon père. Il l'a posée sur le dossier de la chaise au bout de la table. Un subtil mélange d'effluves de transpiration avec des restes de son eau de toilette, dont il n'abusait pas, de son tabac brun, il ne fumait guère, de la poussière du théâtre, de l'odeur âcre et profonde qui se dégage des planches de la scène, du craquement acide de certaines d'entre elles qui allaient se mêler aux divers chuchotis, toujours, des acteurs qui patientaient dans les coulisses, des quintes de toux des spectateurs dans la salle, le grincement de la poulie de la corde, des cordes qui soulèvent et descendent les rideaux, le bruit des décors qu'on déplace en coulisses, les remarques des uns et des autres en coulisses, « Tu n'es pas en forme ce soir », etc. Coulisses du texte de l'auteur qu'on n'entendra jamais. Tout cela, je le devinais en m'approchant de sa veste. J'en soulevais les manches, je reniflais à l'intérieur. Oh, les odeurs, les bruits, les paroles obscures qui résonnaient encore dans les galeries souterraines de ses manches. Oh, combien de rôles avait-il dû endosser avec, avant ou après cette veste, ou sans elle, parce qu'il l'oubliait parfois dans sa minuscule loge. Parfois, il n'y avait pas que ces odeurs. De ses poches, je retirais des pièces de monnaie inconnues, des petits bouts de papier chiffonné, un ruban, une épingle à cheveux. Une nuit, j'ai voulu la passer entièrement sur moi. Trop grande, bien trop grande. Et ce fut comme si j'étais assise dans un express, filant tout feu éteint dans un tunnel interminable. Il rentrait à pied du théâtre tard dans la nuit après la représentation, traversant presque la moitié de la ville, empruntant toujours le même itinéraire. Et sa veste, ainsi, s'imprégnait à son passage de toutes les effluves de la ville, des rues, de l'humidité des murs, des jardins publics qu'il longeait, du cliquetis des arroseurs automatiques dans les jardins, des parfums violents des prostituées qu'il croisait, des éclairs lancés par les verres ou les lames de couteau de ceux qui s'empoignaient sur les terrasses de café avant leur fermeture, de l'odeur sirupeuse filtrant par les portes blindées des boîtes de nuit. Il lisait, dans les caniveaux, les titres à moitié amputés des journaux de la veille, récupérés sur le bord d'une fenêtre un des tracts de la manifestation de l'après-midi qui avait mal tourné. Et puis le théâtre a fermé. Tous les théâtres ont fermé les uns après les autres, et il est redevenu Œdipe. Œdipe errant. Puis, il est parti sur des bateaux. On ne l'a plus revu pendant des années. Sa veste est restée là, sur le dos de la chaise dans la cuisine. Ma mère ne l'a jamais plus brossée, ni lavée, ni rangée dans leur armoire. Plus personne n'a osé jamais s'asseoir sur cette chaise, en attendant... De peur que, en attendant que la veste se dissipe toute seule ou bien s'incorpore à la chaise elle-même, et que la chaise se transforme par exemple en chat, la moustache du chat me rappellerait toujours celle de mon père, ou que la veste s'envole un jour de grand vent par la fenêtre et redevienne l'épouvantail au milieu du champ, là-bas. Et j'irai souvent rajuster sur sa tête le chapeau de paille de mon père. C'est à cette époque-là que j'ai compris que je n'étais pas Antigone, que la malédiction avait cessé, s'était consumée d'elle-même en quelques secondes, qu'elle était enfin sortie de notre vie d'une manière imperceptible et soudaine. Et puis ça suffit comme ça ? Non, n'ouvre pas la fenêtre, je ne veux pas qu'on me voie. Parfois je bois le soir, beaucoup. Personne ne peut plus m'empêcher de le faire à présent. Je bois tous les soirs d'ailleurs, et je me souviens de tout. De ma sœur, par exemple. À quelle heure allait-elle encore rentrer de son cours de danse ? Et son repas était déjà froid. D'ailleurs, je la hais. Depuis toujours, elle n'a jamais pu rentrer à l'heure. Elle qui dispose d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une voiture confortable ou que sais-je d'autre. Elle se débrouille pour ne jamais être à l'heure au repas. Alors je bois en l'attendant. Quand elle rentre, je dors déjà, assommée. Et comme à chaque fois, sans rien toucher à ce que je lui ai laissé sur la table, tout juste va-t-elle croquer dans une pomme, elle s'assoit devant la glace pour peigner interminablement ses longs cheveux noirs que je lui envie secrètement. Et comme à chaque fois, le bruit profond que fait sa brosse dans sa chevelure, un parfumé et plein d'étincelles, va me réveiller, répéter 10 fois, 20 fois, là, au long de ses cheveux couvrant sa poitrine, ses cheveux épais qu'elle étire du crâne jusqu'à ses hanches, 2 coups à droite, 2 coups à gauche, comme si elle se disait « Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas ». J'imagine la danse de la brosse au bout de sa main ferme et décidée. Cela m'exaspère et m'envoûte en même temps. C'est cette assurance aussi que je lui envie. Jusqu'au moment où elle noue ses cheveux en 2 nattes parfaites et ondulantes, qui m'ont toujours fait penser à 2 serpents. À 2 serpents ou à 2 vagues silencieuses, 2 filets de sable qui s'écoulent parallèlement, identiquement au long de son cou et dont les reflets remplissent la chambre, notre chambre, toute la nuit, sans qu'elle le sache, une fois qu'elle s'est endormie. Aussi le matin, pour me venger, j'extirpe de la brosse 4 ou 5 de ses cheveux, il en reste toujours une poignée, que j'enroule ensuite précautionneusement jusqu'à en faire une sorte de lacet que j'utilise pour lier les rouleaux des feuillets sur lesquels j'écris mes poèmes. Comme cela, la douceur et l'opulence de ses cheveux se mêlent-elles à la rudesse et à la pauvreté de mes vers, comme si je voulais relier quelque chose d'elle avec quelque chose de moi, signaler secrètement et contre moi-même combien nous nous ressemblons. Je suis ici depuis combien de temps ? Serais-je arrivée ainsi au bout du temps ? Au bout de la course des jours ?
Comme il est tard. Tu entends la cloche ? Que dit-elle ? Et la mélancolie qu'elle répand tout autour. Tu l'entends ? et sa mélancolie qu'elle est censée dissimuler. Nous sommes déjà au bord du crépuscule, aux portes de la presque nuit. Les éclairs surplombent la plage, transpercent les vagues. Longtemps, longtemps, le cri des dunes qui chavirent. Tu entends ? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus la mer maintenant ? Je ressens chaque os de mes doigts, toute la voûte intérieure de mon crâne, dans ce silence. Toi aussi ? Comme je ressens chaque virgule dans chacun de mes poèmes, chacun des points de suspension disséminés parmi tous les vers, écrits depuis que le monde est monde, depuis que le monde écrit. Car toute chose écrit, tu le sais, toute chose trace des signes somnolents sur les pierres, ou sur les ponts des bateaux, sur les masques, sur les nuages en perdition, sur les lèvres des avions morts, sur les bras levés des immeubles quand ils s'effondrent sous les bombes. En tâtonnant avec ses mains sur les parois des cavernes préhistoriques, toute chose parle, avec sa salive, avec sa sueur, ou son ombre. Et la plus petite miette de pain peut dialoguer avec le sentiment d'immortalité, et le pressentiment de la mort discute avec le reflet de l'oiseau sur la cerise. Et d'invisibles fleurs s'éparpillent avec les alphabets dont l'araignée d'eau parsème la fin du jour. Et l'infini écrit une longue lettre destinée au dernier poisson qui n'a pas été pris dans le filet, à l'étoile qui file tout droit entre deux cyprès, au fil de l'araignée qui restait collée aux moustaches de l'éternité. L'eau vibre, la feuille tressaute, le soleil s'immisce même derrière les barbelés, étend une fleur toute simple au bout de ses doigts. Le rêve, le tien, le mien, passe d'une porte à l'autre, d'un front à l'autre. Les chimères de la rosée tourbillonnent et bavardent entre les cils blancs de l'été, depuis le fond des âges. Ainsi, nuit et jour. Tu ne veux pas qu'on arrête ? Quel jour sommes-nous ? Mardi ? Tu crois vraiment ? Pourquoi pas ? Quelle relation entre ce mardi-là et la solitude du vendredi ? Comment tout cela a-t-il voyagé pour arriver jusqu'ici ? Et les voyages ? As-tu beaucoup voyagé, toi ? Et les retours ? Le secret des retours. Avais-tu oublié qu'il te faudrait revenir comme un bagage éreinté qui tourne et tourne sur le tapis roulant de l'aéroport et que personne ne prend ? Oh non, non, je ne veux pas. Je veux que personne ne me prenne sur le tapis roulant des jours. J'ai encore en moi, dans ma bouche, la tristesse de ce mardi-là. Le mien. Où j'avais le temps, tout le temps d'être triste, où j'ai eu tout le temps d'être triste, gratuitement, pour moi, et d'abandonner futilement tous mes désirs, tous mes poèmes, comme des bagages inutiles à la consigne de l'aéroport. Mais je sens que je vous fais perdre votre temps et je n'oublie pas que tu as un autre rendez-vous dans la soirée après moi. Il va te falloir, je suppose, trouver un faux prétexte pour l'annuler, le reporter, inventer un mensonge. Ne culpabilise pas. Moi-même, que de fois ai-je utilisé le mensonge pour me sortir de situations embarrassantes ? Mentir. Quel délice ! Et puis, il y a tellement d'occasions dans la vie où mentir est notre seul secours. Où il ne nous est pas laissé d'autres alternatives pour voyager que par mensonges interposés ? Il y a si longtemps que je n'ai pas voyagé. Et les valises elles-mêmes sont pleines de mensonges, de sous-vêtements mensongers, de chemises mal pliées qui n'osent qu'à moitié avouer qu'elles n'ont jamais été portées. Et puis d'ailleurs, elles ne le sont plus du tout à la mode. Pleines de chaussettes, dont on se demande ce qu'elles viennent faire là. Pourquoi tant de chaussettes? Pour 2 jours. A-t-on idée? Les mensonges sont des valises. Aussi. Lourdes. Très lourdes. Il vaut mieux parfois les égarer. Les oublier sur le quai au milieu des embrassades, dans la confusion des retrouvailles. Les laisser dans le coffre de la voiture. Dans le coffre du taxi. Il s'est trompé d'adresse. Peu importe, les mensonges voyagent. Quelqu'un d'autre s'emparera de ses valises, croyant qu'elles lui appartiennent. Ses vraies valises personnelles. À qui ? Les mensonges d'un autre, les mensonges ne cessent de voyager autour de la terre. Quelle délice ! Est-ce que j'attendais là, sur le seuil de la maison, depuis toute petite, avec la poupée verte échouée à mes yeux ? Je suis assise dans l'herbe, avec les murs du jardin autour du moi. Je suis assise parmi les nombreux moi qui viennent d'éclore en même temps devant mes yeux. Et alors que je ne sais plus où je suis, je n'éprouve aucune appréhension. J'escalade lentement le bruit des moteurs des voitures qui ronflent dans l'avenue, toute proche. J'escalade les tas de feuilles toutes identiques qui ont fini leur tour de monde. Je franchis les murs, les silences, les étoiles empilées. J'emprunte l'escalier des écumes. J'enfile le manteau humide du soir. Je n'ai plus 2 ou 3 ans. Je n'ai que des morceaux de syllabes. Tous les parfums viennent me lécher la joue. Toutes les nuits sont de mon âge. J'ai le même âge que le brouillard qui passe sur les bras des épaules désemparées. L'âge de la pluie grise qui dégouline avec la boue entre mes doigts. L'âge de l'or qui resplendit entre les yeux d'un chat. J'ai le temps. J'appartiens au temps que m'étaient à sécher les gouttes d'eau qui ruisselaient tout au long de mon corps quand je sortais de la mer. Je les sentais toutes, une à une, se désolidariser de ma peau, pour tomber ensuite à pic sur mes pieds, comme si elles m'avaient vraiment appartenu avant. Et simultanément, j'appartiens à l'instant précis où ma mère me frotte avec une serviette, au temps propre à l'inquiétude de ma mère qui craignait toujours que je prenne froid. Et puis je suis dans la respiration saccadée de ma mère quand elle préparait la pâte pour un gâteau, dans le parfum qui émanait de la pâte, dans la poussière de farine qui voletait autour de son visage, quand elle la retournait brusquement sur la table avant de l'étaler, comme si par même la même occasion elle parvenait à écraser et enfouir son chagrin. Voilà pourquoi je prends le plaisir à porter les mêmes vieux habits, à finir les mégots de la veille, à dénuder ma peur, essuyer les miroirs, à tout ranger et préparer dans la maison, pour que la nuit puisse s'y installer à son aise. Ne te retourne pas. Voilà pourquoi tout le jour, j'écris. Je gratte la terre, j'entasse des cailloux, j'enterre des pétales. Je plie des soupirs en 4, je pile les os des mots, des lettres pour mes poèmes. Tout cela inutilisable, bien sûr. J'ouvre en grand les fenêtres et vasisda des souvenirs pour les refermer aussitôt. J'ouvre le frigo, sers du lait au chat, j'oublie de refermer le frigo. Je croque un vieux morceau de chocolat. Je mets une nappe toute neuve sur la grande table. Un grand bouquet au milieu. Je mets le couvert comme si 50 personnes allaient venir, comme au temps où nos parents donnaient des fêtes qui duraient jusqu'au soir, jusqu'au matin. T'en souviens-tu? Comme au temps où il n'y avait pas de vent, où il n'y avait pas de couloir. comme au temps où les gens n'avaient pas peur de se pencher aux fenêtres et de rire.
Ainsi, qui sait depuis combien d'années j'erre de pièce en pièce dans cette maison, cette caverne, comme je l'ai appelée. Mais de quoi voulais-je te parler tout à l'heure? De quelle guerre? De quelle fumée? Ah, mon frère? Oui, j'aimais masser les pieds et les jambes de mon frère après la course. Il m'arrivait parfois de l'accompagner dans son parcours. Bien sûr, il avait vite fait de me devancer. Je le voyais s'élancer devant moi dans le matin, glisser comme une feuille dans l'air. Mais je persistais. J'ai toujours aimé courir, moi aussi. Au bout d'un moment, tu sais, je ne sentais plus mes jambes, mes muscles. Je ne sentais plus les gouttes de sueur ruisseler sur mes tempes, non. Je n'étais que bleu perdu dans le ciel. Tache blanche de l'escargot sur une écorce rouge. Pierre noire en bas du mur de pierre noire que je longeais, goutte de rosée qui s'écoule méditativement sur une feuille de chêne, murmure de la rivière à travers lequel je m'enfonce, obscurité que je percute pour rejaillir, toujours nouvelle, emmurée dans mon murmure. Je n'entends même plus ma respiration devenue si courte, si légère. Dieu sait si je respire encore. Je n'espère plus rattraper mon frère, ni atteindre quoi. Je suis absence, brûlante absence. Je suis vent parmi les vents qui m'escortent, lumière qui effleure l'abeille sans effort, abeille dans le quotidien de la lumière enflammée, ronde, des feuilles sans nombre qui se soulèvent à mon passage. J'avance. Je cours au fond de moi-même, à l'intérieur de mon souffle, à l'intérieur du soleil que je soulève à chaque enjambée. Et le soleil n'est qu'une pierre de plus parmi toutes celles que je croise. Et dans le même temps, le même espace embrasé, je me heurte à chacune des particules du froid, de l'air froid qui m'éclabousse et prennent feu à mon passage. Et je découvre la statue d'un Bouddha recroquevillé, en pleine méditation au milieu de ma foulée, quand, au bout de mon souffle, voilà que s'érige le ver éclatant, le ver incessant de l'étreinte du temps qui se défait peu à peu. J'atteins le point invisible du centre du temps qui virevolte devant moi comme une luciole. Je le vois, il m'obsède et m'attire et je l'esquive et je le porte en moi, sur chacune de mes phalanges, sur mon front, sur mes lèvres et je le piétine en passant enfin. Et je cours à côté de moi comme un javelot lancé depuis l'origine des temps. Je suis sur terre et la terre roule sur moi et je m'élève comme un poème sacré, un poème anonyme, quelconque, analogue au néant. Un poème sans sépulture. Je suis la poussière sur les ailes de la poussière qui s'élève derrière le poème, qui court à perdre haleine à mes côtés. Oh mon frère, comme j'aimais masser tes pieds après la course. Pourquoi je te parle de ça maintenant? Pourquoi ce souvenir précis? Pourquoi ai-je dit non? Une autre façon de dire oui? De dire oui à autre chose autrement. Mais pour l'histoire, je n'ai été que ce non. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai fait sans y penser. En pesant chacun de mes gestes, Je l'ai fait parce que j'avais couru longtemps. Parce que j'étais essoufflée, je l'ai fait parce que tout à coup j'ai vu mon frère. J'ai retrouvé mon souffle. J'ai soulevé mon frère, je lui ai parlé. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas su quoi lui dire. J'ai regardé tout autour de moi. Je n'ai pas admis. J'ai recouvert mon refus de poussière. J'ai passé toutes les bagues de mes larmes sur les doigts de sa mort. J'ai creusé mon cœur comme un puits. J'ai rempli la mer de ses yeux ouverts et j'ai vidé mon cri, dévidé mon traîne lentement comme une citerne se vide goutte à goutte. C'est tout ce dont je me souviens. Et les souvenirs, quoi de plus incompréhensible? Pourquoi tel souvenir plutôt que tel autre, au cours de ces longs voyages dans notre esprit, vient-il se présenter de manière ainsi improvisée au point de s'imposer comme la seule chose qui compte à cet instant précis, au détriment de tout le reste? Telle tache sur un mur, telle feuille, tel virage sur une route, telle parole bredouillée sous un porche dans une allée, se distingue soudain plus réelle. Comment et pourquoi les laisse-t-on entrer? Et la façon dont le souvenir s'approche de nous aussi et respire tout près de notre tempe, sa démarche, le temps qu'il met pour vraiment arriver jusqu'à nous. Sourit-il? Fume-t-il une cigarette? Porte-t-il un chapeau? Des gants? Ne fera-t-il simplement que nous croiser en sifflotant? Ou bien cherchera-t-il obstinément à nous accoster, nous traverser? Aura-t-il eu la présence d'esprit de fermer sa voiture garée dans la contre-allée avant de nous héler? Regarde-t-il le ciel ou bien la pointe de ses chaussures? Nous parlera-t-il en nous tournant le dos face à la mer? As-tu déjà vu un souvenir de dos? As-tu déjà vu des souvenirs sans dos, sans par-dessus ni parapluie, sans un bouquet de fleurs détrempées à la main, sans un carton sous le bras contenant 4 ou 5 pâtisseries écœurantes, ou sans un carton de vieux livres moisis sous le bras? Ou bien sans un livre aux pages détrempées et écœurantes dans la poche intérieure de son pardessus, sans une lettre dissimulée sous sa veste dont tu ne parviendras jamais à décrypter le contenu, ni à savoir jamais vraiment si elle t'était destinée. Quoi de plus inexploré et de plus incompréhensible? Mais maintenant j'ai sommeil. Oui, sommeil. Oh, j'ai sommeil comme jamais. Pourrais-je dormir un peu, tu ne m'en veux pas? Oh, m'allonger et m'en aller ainsi au fond de mon sommeil, m'en aller nu dans un sommeil sans fin, sans but, enfin, un sommeil qui exaucerait tous mes caprices, m'ensevelissant dans ses pétales, dans ses oiseaux, dans ses syllabes, ses cristaux, dans ses longs copeaux, sans rêve, sans raison, sans minute comptée, sans miroir ni bougie, sans mon propre visage dans le miroir. Mon visage à la bouche trop triste toujours, un sommeil comme au cours de cette longue après-midi au bord de la mer, où tout serait là, et dormirait aussi, les parasols et l'ombre des enfants sous les parasols, le sable muet, les vagues immobiles, le temps comme une poussière au coin de l'œil de l'horizon, le soleil endormi nous réchaufferait d'une façon tout à fait équitable. Quelques oiseaux lumineux, suspendus en l'air, et leurs cris arrêtés à tout jamais. Oh, et puis, plus rien. Plus de traces de mes pas sur le sable derrière moi. Plus de destination à mes pas. Plus besoin de prendre des photos de vacances. Plus besoin d'albums dans lesquels ensuite les ranger. Plus de traces de mes manuscrits, de mes mots, plus traces de mes lèvres sur le rebord des vers, plus de traces de mon haleine sur le verre des mots, plus besoin de couper les gâteaux d'anniversaire, plus de livres sur mon lit, plus de nuits entre les jours, plus aucun secours, plus d'ampoules grillées à remplacer, plus d'alphabet, plus de ciel entre les lettres, plus de lettres glissées sous la porte, plus de vent sifflant sous la porte, plus de vent nulle part. Jamais, plus aucun chant, plus d'asphodèle, plus une seule larme de plus dans la mer, plus aucun reniflement de bateau contre le quai, plus aucun bateau pour justifier la mer.
S'en va. Et puis pourquoi à la fin ne pas laisser tout ça comme ça? Pourquoi ne pas laisser toutes ces choses se débrouiller au milieu de leur beau désordre? Des rangées de livres sur les étagères, comme une armée momifiée. La bicyclette dans l'entrée, la lumière d'un matin restée encore à l'heure d'hiver entre les branches de l'été. Les attestations certifiées conformes de toutes nos vies antérieures jointes au rappel des quittances impayées. Le miroir parsemé de tout petits fragments de mer, de sel, d'aiguilles de pain. L'odeur des pains. Les gouttes de peinture fraîche qui grelottent encore sur le carrelage. Tout ça, comme ça. Ne pas descendre la statue du soleil de son piédestal. Laisser la photo écornée au coin du miroir de l'entrée, ne pas y entrer, ne pas déchirer les gestes du vent, ne pas ranger les maillots du ciel qui voulaient sécher sans faire d'histoire, toutes choses bien en désordre, qui regardent, en notre absence, la neige stérile tomber dans l'écran à la fin du dernier programme télé. Non, pourquoi faire? Rameuter les anciennes questions? Tout ça comme ça, les couverts timides qui n'ont pas servi, les serviettes de table empilées sagement comme des poèmes défraîchis dans une vieille anthologie, les fleurs pessimistes dans les vases pessimistes, les verres en carton empilés dans un optimisme de carton, tout ça comme ça. Pourtant, l'autre nuit, tu sais, je n'avais pas bu plus que d'habitude. J'ai pris la voiture, le cabriolet décapotable de ma sœur. Je ne sais plus depuis quand je n'avais pas conduit. Prudemment, je n'ai fait d'abord que le tour du quartier. Tout le monde dormait, aucun chien n'a aboyé. Puis j'ai roulé jusqu'au front de mer. Sur le parking, il n'y avait personne. Je me suis amusé à faire des appels de phare en direction de la plage vers le rivage en ne distinguant qu'à peine la crête des vagues formant une fine ligne grisâtre flottant sur le noir d'encre de la mer. Puis, je ne sais comment, j'ai trouvé la route de la côte et j'ai filé. Chantant à tue-tête, je n'ai cessé d'accélérer, criant « À moi, Sitges, Cadaques, Empuria Brava, Arenis del Mar !» Faisant peur à la lune, je klaxonnais dans les virages au risque de plonger droit dans la mer. Une autre que moi avait pris les commandes. À travers la nuit, tant de mers sont venues ainsi défiler devant mes phares. Certaines entamant une course-poursuite avec moi, soulevant toutes les robes, leurs robes d'écume comme un tapis volant sous mes roues, la houle de la nuit. Me suis-je vu alors, reconnu dans le rétroviseur échevelée, hirsute, moi, plus que perdu, entre Sitges et Cadaqués. Plus tard, je me souviens de m'être agenouillé sur le sable devant la voiture arrêtée, tous feux allumés, moteur tournant au ralenti, agenouillé et vomissant, enfin, par saccade, et gémissant par saccade. Qu'on en finisse, oh, finissons de chercher Dieu et cessons d'attendre la pluie. Et jetant des poignées de sable sur ma tête, comme voulant m'ensevelir, je répétais en crachant du sable « Donnez-moi le baiser qui s'est brisé dans le combat. Laisse-moi glisser ma plaie dans ta blessure, mon frère. Délivre la salive que ma langue a laissée sur ton cou. Rends-moi ma faim de louve quotidienne et revenons au commencement. Avant que j'apprenne à compter les minutes, avant que les fleurs apprennent à se faner, avant que leur parfum, avant les paroles, avant que chaque parole que j'ai proférée ne me paraisse étrangère, avant d'achever ce monologue décousu que je t'ai infligé, pourquoi devoir toujours choisir entre hier et demain, entre Ismène et Antigone, entre le bleu et le jaune, entre l'envoûtante petite feuille de l'instant et la source intarissable des jours qui passent. Le son d'une flûte se fait entendre au loin à mesure que je m'éloigne et s'envole au lent rythme des vagues.